Tu rêves d'un raccourci pour prendre du recul, être aligné et retrouver ce qui apporte du sens dans ta vie? Je te comprends, j'étais comme toi. Grâce au bilan de compétences nouvelle génération de Pourquoi pas moi, en moins de 3 mois, tu vas apprendre à te connaître et oser dépasser tes peurs, le tout avec plaisir et à ton rythme. Si tu veux bénéficier d'un financement à 100% avec ton compte personnel de formation, inscris-toi vite avant le 1er mai, car après, il y aura un reste à charge de 100 euros. Pour en savoir plus, je te donne rendez-vous dans le lien de la description.
Moi, j'apprends en regardant l'écran. Il me pose des questions, je regarde l'écran et je vois Alexandre Mazia 3 étoiles. C'est comme ça que j'ai appris que j'avais 3 étoiles. Attends, vous réalisez pas trop, en fait. T'es content, mais vous faites une rétrospective sur votre vie, quoi, ce que vous avez fait, l'engagement. Et puis, c'est là que vous prenez conscience. C'est là où, à un moment donné, je me suis arrêté, je suis rentré le soir, parce que, par le coup, on descend la Tour Eiffel. Et descendre la Tour Eiffel, il était quoi, à 19h? Il y a personne. Paris était vide. Je reste à peu près, une heure en bas et la Tour Eiffel commence à scintiller. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que nous, à quelques mètres à côté, il y a Bir Hakeim qui est à côté, le pont de Bir Hakeim. Et moi, j'allais jouer au basket au pont de Bir Hakeim. C'était mes premiers streetball qui étaient l'endroit où Paris fallait jouer. C'est la première fois où j'ai commencé à jouer au basket là, où les gens ont commencé à respecter le basketteur. Et de se retrouver là, des années après, recevoir votre 3e étoile au pied de ce terrain à Bir Hakeim, c'est juste fabuleux, quoi. Il y avait une espèce de boucle bouclée en train de vous remémorer tout ce qui s'est passé pour avoir cette magnifique 3e étoile.
Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers-Natral, la fondatrice de Pourquoi pas moi, l'auteur de Et si je changeais de métier, et la créatrice d'un bilan de compétences nouvelle génération. Trouver ma mission de vie et écouter ma petite voix. Finançable à 100% avec votre CPF. Grâce à des témoignages sans coupe, découvrez les véritables coulisses de ceux qui ont écouté leur petite voix. Pourquoi pas moi, le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Une fois encore, je me sens chanceuse de passer un moment privilégié avec une personne comme Alexandre. C'est un grand homme, dans les deux sens du terme. Alexandre a commencé à jouer au basketball à haut niveau avant de se consacrer à 100% à la cuisine. Cette année, Alexandre est le seul chef ayant reçu une 3e étoile à l'occasion de la dernière promotion du fameux guide rouge. Parce que nous avons enregistré au milieu de son restaurant, vous allez vivre une expérience sonore dans les coulisses du grand chef. Allez, je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers d'Alexandre Mazia. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît?
C'est un numéro 23, tu vois, un numéro 23, que j'ai trouvé ça chez un antiquaire. Et en fait, c'est le numéro, ça peut ressembler un peu à des boîtes, tu peux mettre sur des boîtes de rasage ou même sur des vestiaires au salon de porte. En même temps, c'est le numéro de jeu de Michael Jordan. Donc voilà, c'est ça, tu vois, puis j'ai même aussi un fouet, j'ai le Golden State aussi, San Francisco.
C'est un porte-clés qui vient dans ton image.
Il y a un peu de tout. Voilà.
Avant qu'on parle du basket et du fouet, du fouet de cuisine évidemment, parce que les personnes ne voient pas l'image, est-ce que tu pourrais nous raconter où est-ce que tu as grandi?
Alors moi je suis né en Afrique au Congo, à Pointe-Noire, à la clinique des Monguiers, 14 ans en Afrique. Mon père était négociant en bois, ma mère était expert comptable, donc je me suis retrouvé là-bas en Afrique à cette occasion-là, donc du coup... Mon père était donc négociant en bois et donc choisissait les bois tropicaux pour éviter la déforestation, était affrété par le fleuve Congo et repartait ensuite en Europe.
Voilà. Et toi, à cette époque-là, tu étais quoi comme petit garçon?
Je dirais, j'étais blond, très très blond, voire les cheveux blancs, j'étais un peu plus grand que la moyenne. On habitait à la côte sauvage en face des gorges en face de la mer, pardon. Juste, on était une maison juste à proximité de la maison de Denis Sassou Nguesso, qui était le président du Congo, toujours encore d'ailleurs. Et voilà, donc c'était coucher de soleil tous les soirs. Ma maman, elle avait toujours un rituel d'aller au fameux coucher de soleil chaque soir. Donc voilà, chose simple, hein, poisson grillé, un peu d'insouciance, beaucoup d'insouciance, je pense.
Et à cette époque-là, tu te disais, quand je serais grand, ça serait quoi tes rêves?
Je me rappelle sur un mot d'école, il y a récemment que j'ai sorti, on disait élève rêveur mais qui n'a pas de rêve. Donc c'était un peu compliqué ça, élève rêveur mais qui n'a pas de rêve. C'est-à-dire que j'étais souvent la tête en l'air, mais Quand on me demandait à quoi tu penses, je disais, bon, je sais pas. Et je pense encore, c'est un peu pareil. Je pense que je suis pas un rêveur. En fait, oui, je suis pas un rêveur. Je suis pas quelqu'un qui est expert, qui espère ou imagine quelque chose. Quoi que ce soit, d'ailleurs, je pense, si je veux le faire, je me construis en tant que tel et je me conditionne. C'est plutôt un objectif. Ça fonctionne comme ça. Des rêves, oui, parce que, en fait, du coup, moi, je suis quelqu'un qui rêve beaucoup, mais dans le sommeil.
Et à, un donné,
même, et à un moment donné, les rêves me faisaient peur, donc c'est pour ça que je dormais pas beaucoup. Enfin bref, voilà. C'est
pour petit mot, on est au milieu de ta cuisine, d'où le bruit et les coucous, mais ouais. Ça fait partie du charme.
Ça fait partie du charme. On peut se décaler, hein, si tu veux, là-bas.
Ouais. Bon, non. Au point où on en est, c'est pas grave. Est-ce que tu pourrais nous raconter comment ça s'est passé ton retour à Paris ? Enfin, en France, pas à Paris, mais d'ailleurs à Marseille. J'imagine que ça a dû être...
Le retour à Paris, c'était pas forcément superbe. C'était l'âge de 15 ans. On me met à une école d'horticulture. École d'horticulture, pension, chez les Jésuites, à Ignipalaiseaux.
Pourquoi une école d'horticulture ?
Il faut demander à mes parents.
Donc du coup, tu t'es inscrit dans cette pension, école d'horticulture.
Ouais, inscrit à école d'horticulture, pension. Puis du coup, ça c'est voilà. Puis du coup, tout de suite, c'était un peu particulier parce que la pension, c'était pas un domaine à laquelle j'ai été préparé. Dormir sur place, j'étais un peu seul. Enfin, comme beaucoup, je pense, quand ils sont en pensionnat. Mais moi, je venais d'Afrique, même pas un mois auparavant. J'étais encore là-bas, donc la rupture s'est faite un peu brutalement, dirais-je. Mais après, on se construit comme ça, voilà. Après, j'ai eu la chance de rencontrer des gens sympas. Et tout de suite, je pense que, comme je disais, le sport m'a éduqué. Tout de suite, le sport m'a... Je suis réfugié un peu dans le sport. Il y avait des gens qui jouaient au basket dans la cour. Tout de suite, j'ai joué avec eux. J'ai vu qu'ils étaient sympas avec moi, que je pouvais parler. Il n'y avait pas de différence sociale ni sociétale, au contraire, même parce que comme j'étais plus grand, ils appréciaient que je jouais avec eux.
Est-ce que tu mesures quoi, 1m95?
Bah là, à 15 ans, je faisais 1m87.
D'accord.
Presque 1m90 à 15 ans. Donc c'était un peu plus grand que les autres. Donc forcément, ils m'ont particulièrement, ça m'a aidé déjà dans la tête, quoi. Ça m'a aidé dans le.
Ouais. Et donc du coup, le basket rentre dans ta vie. Tu joues de plus en plus.
Ah bah le basket rentre dans ma vie. Disons que je faisais aussi du ping-pong, donc tout ce que je faisais en fait je faisais toujours avec pugnacité. En fait le basket tout de suite il y avait la fratrie, on m'a demandé de faire des tournois. Or c'était génial parce que j'ai rencontré d'autres personnes. Et donc voilà des tournois, beaucoup de tournois 3-3.
C'est quoi des tournois 3-3?
Tournoi 3-3, c'est du streetball en fait. C'est du streetball. En région parisienne, il y avait beaucoup de tournois qui étaient sponsorisés par Nike, Reebok, Blacktop Reebok, les Gigalavis qui étaient dans des endroits, les 3-3 qui étaient là dans toute la région parisienne. Et en fait, on jouait par catégorie et à la fin, on pouvait gagner, on pouvait avoir des sponsors. Donc c'était génial. Donc nous, on a été sponsorisé par Champion, la marque. Donc c'était super parce qu'on avait des suites, des chaussures, des chaussettes gratuites. Quoi, c'était top. Et donc à ce moment-là, je me fais détecter pour rentrer en club. Et donc ouais, ça s'est fait de cette manière-là. Je suis allé relativement vite, mais c'est un peu ça.
Et quand t'as été détecté pour être pris dans un club, comment tu l'as vécu ?
Ouais, c'était super. Après j'ai passé des détections cadets de l'Europe avec des meilleurs joueurs de la région parisienne qui maintenant on fait les beaux jours aussi l'équipe de France comme Sacha Gifa, Vincent Mazingue. Thierry Rupert, Mustapha Sonko, toute cette génération-là. Moi, j'étais un peu plus jeune, mais voilà, qui étaient les pompées parisiennes des grands joueurs français, quoi. Donc, moi, j'ai baigné avec eux, on s'est entraînés ensemble. C'était cool. Et puis j'étais aspiré par autre chose, c'est-à-dire que voilà, tout de suite, j'ai fait vite l'école hôtelière et forcément, je suis rentré dans un autre univers.
Pourquoi du coup, t'as ton bac, tu joues en club, mais bon, en passe-temps, loisir. Comment ça se passe du coup pour toi ce moment de faire un choix d'études?
Moi, un choix d'études, c'est passé. Je fais des écoles pour entrer dans les grandes, enfin, je fais des concours pour entrer dans les grandes écoles, auxquelles je refuse d'y aller, où je me dis mais qu'est-ce que je vais faire? Je me sentais pas.
Des grandes écoles de quoi?
École des médecines, donc santé navale. À l'époque, j'avais fait quoi? Henri IV, enfin, parce qu'on rentre par dossier comme ça. Moi, Mathieu Patspé, tout ça. Enfin, donc du coup, c'était pas ma cam. Et même si je respecte totalement, mais c'était pas là où je pense que j'allais pouvoir m'épanouir. Et tout de suite, j'ai dit, j'ai voyé ma grand-mère. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire, tu vois, mamie, c'est un peu le bordel dans ma tête. Ça faisait à peine 2 ans qu'on était en France, donc c'était très compliqué pour moi. Et elle m'a dit, t'as qu'à faire de la cuisine. La cuisine, tu m'auras pas de faim, tu verras, c'est sympa. J'ai dit, ok, pourquoi pas. Donc du coup, j'ai écouté parce que je passais souvent des étés avec ma grand-mère et mon grand-père, donc j'ai écouté. Donc du coup, le lendemain, je suis allé m'inscrire Santos Dumont, Saint-Cloud, l'école hôtelière, et puis voilà, CAP, BEP, bac pro, 1 an chaque fois, mention complémentaire traiteur, mention complémentaire pâtisserie, chocolaterie, confiserie. Après, j'ai même passé un CAP boulanger à Agen quand je jouais au basket, pas très loin, à Meillan-sur-Garonne. Donc voilà, j'ai toujours baigné dans l'univers du basket en parallèle, mais la cuisine pour moi a pris un énorme, m'a complètement envoûté.
Ouais.
Par ces profs formidables, par cette ambiance incroyable, les gens fantastiques.
Ça a été quoi ton premier contact du coup avec la cuisine, la gastronomie en tant que telle?
Premier contact avec la gastronomie, c'était les premiers stages, parce que quand t'es à l'école hôtelière, quand on s'appelle BEP première année, ils font des stages, toi les stages de 1 mois. Donc moi premier stage, et à la suite de mon premier stage, on avait commencé chez au... Je crois la Grande Gerbe. Après, j'avais fait un stage aussi, Pote à l'Échabou. Et après, j'ai fait des stages, pas forcément que dans les gastro, mais après, ce qui m'a ouvert les portes, c'était le Vénitien Prestige à l'époque, à Rue Malmaison. Restaurant gastronomique, une grosse brigade, on était 20-25. Le chef était un ancien de Chim-sur-Aubuchon. C'était une grosse... moi ça a tout de suite plus côté un peu hiérarchique, on va tous au combat, c'était marrant. Moi j'avais toujours un point de recul par rapport à comment les gens vivaient les choses et comment moi je les vivais, parce que moi j'avais toujours le sport, donc si tu veux, ça me permettait, c'était vraiment une soupape de sécurité, et ça me permettait de vraiment sortir d'avoir pas forcément le poids du résultat, même si je devais être irréprochable. C'était important pour moi d'être aussi redevable aux uns et aux autres par le fait que voilà, il y a des moments où je pouvais pas être là parce que j'avais des entraînements et on me laissait mes entraînements, mais j'ai rattrapé, je me rappelais avec le temps largement, on va dire cette perte de temps, si j'ose dire.
Ouais. Et du coup, à ce moment-là, donc tu continues le basket, tu fais CAP, BEP.
Ouais.
Comment, à cette époque-là, tu te dis, le basket, ça sera mon travail? Enfin, en gros, est-ce que tu commences à imaginer la suite?
Non, j'imagine rien.
Tu vis le moment?
Ouais, je vis tout de front. Pour moi, c'était important d'aller au bout de chaque chose, les entraînements, même que ce soit les présélections, l'équipe de France, etc., les tournois et tout, j'y vivais pleinement. Et je savais que j'avais la cuisine, la pâtisserie. Et donc après c'était un peu particulier, c'est-à-dire que là où certains allaient fêter la victoire après les matchs le samedi, moi j'allais directement travailler, donc c'était pas pareil. Donc nous on jouait à 16h, quand je me rappelle, en équipe des jeunes, donc de 16h fallait être à 15h30, ça correspondait presque à la coupure. Des fois j'arrivais, je finissais à peine le service, où je partais vite fait et j'arrivais, j'étais déjà j'avais pas besoin de m'échauffer, quoi. J'arrivais, j'étais déjà là et je rentrais dans le match. C'était comme ça pendant très longtemps, mais c'est ce qu'a fait la je sais pas, ce qu'a fait que voilà, c'est que les gens avaient de l'empathie, de la bienveillance à mon égard, parce que vous voyez que j'étais quelqu'un de, je pense, de très motivé et toujours passionné, quoi. C'est ce qui fait que voilà, il y avait pas mal, beaucoup de respect par l'engagement et l'assiduité dans laquelle je réalisais les choses.
Il n'y a pas des personnes, soit dans le basket, soit dans la cuisine, qui t'ont dit justement, mais il faut que tu choisisses.
Ah, personne ne m'a jamais rien demandé, non, personne.
Tu étais tellement déterminé que du coup...
Oui, puis moi ça s'est fait naturellement. Il n'y a personne qui a osé me dire, je me rappelle, aucun chef de cuisine m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais, ou c'était un deal. Hein. Et après, évidemment, au fur et à mesure que j'ai pris des responsabilités dans la cuisine, j'allais pas dire, Je vais pas dire, mon chef, je suis pas au service ce soir, c'est à vous d'être là, quoi.
Ça marche pas comme ça.
Ça marche pas comme ça. Si on vous donne des responsabilités, eh ben, vous les acceptez. Et si vous les acceptez, après, il faut savoir les respecter. Donc, respecter sa parole. Donc, c'était ça. Donc, après, ça s'est fait tout seul. Hein. J'allais moins aux entraînements. J'allais moins au match. Après, j'allais plus du tout au match. Et ça s'est fait de manière naturelle. Ouais. J'ai pas eu besoin de choisir ou j'ai pas dit un jour qu'est-ce que je fais ça.
Ouais, t'as pas eu à te rendre la tête. Ça s'est fait.
Non, naturellement. Une anecdote, je la répète souvent, mais on était à New York avec des amis, on allait s'entraîner là-bas souvent pendant les périodes d'été pour parfaire un peu ses performances individuelles. Et ce qui a fait après que les jeunes en faisaient beaucoup de camps, donc nous on était déjà dans cette abnégation-là. Et c'est vrai que ben, voilà, un jour je reçois un appel, on me dit Alex, il y a une place qui se libère chez M. Hermé, place de la Madeleine chez Fauchon. Moi j'ai pas cherché à comprendre, hein. Je suis parti, j'ai pris mon baluchon. Je suis rentré à Paris.
Ouais.
Mes potes m'ont pas dit, Alex, qu'est-ce que tu fais? Voilà, ils savaient très bien. Et moi, c'était clair dans ma tête. J'ai pas eu de problème à me dire, j'aurais pu très bien dire oui, mais je pense que la génération maintenant aurait dit, bon, ben, je suis libre, mais à partir du mois prochain. Et moi, ça marchait pas comme ça. On a une opportunité, il faut la saisir.
Ouais.
Sinon, on sait jamais, si le train passe, il passera pas deux fois. Quoi.
J'ai interviewé Christophe Michalak qui racontait qu'il avait envoyé, je sais pas, mais peut-être 50 ou 100 lettres de motivation à Pierre Hermé pour pouvoir y aller. Puis finalement, il a réussi à avoir sa place.
Il a réussi à avoir sa place.
Ouais. Bon, et puis après, on sait ce qu'il est devenu, mais la détermination.
Ouais, il faut avoir, je sais pas. Je pense détermination, après, tout dépend. Se dire qu'on est déterminé, c'est une chose, mais le montrer, on est une autre. Et je pense que les gens. Il faut qu'ils voient et que vous soyez déterminés, quoi, par votre engagement, votre motivation, votre curiosité, et aussi de votre servitude, quelque part. Ça, c'est important.
Ouais, c'est ce qu'il raconte. Il raconte aussi que, bon, bah, il avait ses horaires, mais que lui, il était là, il était en horaire d'après-midi, soirée, et lui était là dès 8 heures du matin.
Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret.
Ouais.
Et non. Il n'y a pas de secret.
Et à partir de quand t'as compris que ta carrière au niveau de la cuisine commençait à décoller, entre guillemets?
Alors ça, moi, je me suis jamais... jamais, c'est la première fois qu'on me pose la question. Non, je me suis jamais posé la question de décollage ou pas décollage. Même encore aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Je commence à peine à comprendre que... quoi, l'obtention de la deuxième étoile nous a permis de comprendre qu'on faisait quelque chose un peu différent. Mais franchement, moi, je suis pas un tempérament à regarder ce que je sais pas comment expliquer. Je regarde pas trop ce qui se passe à l'extérieur. J'essaie de m'inhiber, de me protéger de tout ça, parce que c'est comme le basket. Vous savez, souvent quand on joue au basket, vous êtes bon un jour, mais le lendemain, si vous faites un match moins bien, vous mettez moins de points, tout de suite vous êtes sujet à la critique. Donc, le sport m'a appris ça. Le sport m'a appris l'humilité, de savoir que tout peut changer du jour au lendemain. En plus, moi, j'étais arrière-shooter, donc le côté psychologique du shoot, c'est quelque chose qui est assez particulier. Mais moi, j'en ai fait mon affaire. Et du coup, je pense que le fait de... Je pense que je me suis mis hermétique de tout, de ce qu'on pouvait dire ou pas. Alors, évidemment, il y a des choses qui touchent, mais de ce que je pouvais... ce que les gens, des fois, pouvaient écrire ou pas. Il y a un truc, par exemple, c'est que pour la deuxième étoile... le lendemain, par exemple, moi, j'ai passé le balai devant mon restaurant pour enlever les feuilles, quoi. Voilà. Donc tout de suite, ça vous rappelle, tout de suite, si vous voulez, le quotidien vous rappelle qui vous êtes. Il n'y a pas de statut. C'est le regard des gens qui change. C'est pas vous changez pas. C'est le regard des gens qui change. Certains peuvent changer, mais ça, je dirais, c'est chacun est propre à la récompense, mais je pense que c'est ça en fait, de rester droit dans ses bottes, de continuer, de voilà. On m'a toujours appris, généralement quand on est en sélection, on vous prend pour ce que vous faites, pas pour ce que vous allez faire. Donc abandonner, voilà, vous savez très bien. Donc cette deuxième étoile, je me rappelle, voilà, en janvier 2019, février je crois, et on est parti en vacances au mois d'août et c'est ma femme avec une amie de mes parents qui m'ont sorti les articles. Elle dit bon, maintenant il faut que tu lises un peu ce qu'il dit sur toi, tu vois. Et moi j'avais pas lu, quoi. Et en fait, je me rendais pas compte et j'ai vu toute la presse, tout ça et tout, pour savoir, ah ouais, il dit ça et tout. Avant. Même des fois, ça me gêne, parce que des fois, c'est, je me dis, mais non, mais soit c'est alambiqué, ou soit les gens, ils ont des mots forts. Et c'est là où j'ai commencé un peu à comprendre qu'on faisait les choses un peu différemment et qu'on touchait les gens. Puis après, on a reçu beaucoup de mails, quand même, de SMS, de gens, de gratitude et aussi de se dire, voilà, que plus en plus on avançait, plus en plus on représentait quelque chose pour les gens. Donc, on était aussi un espoir, quelque part, pour certains. Ça faisait chaud au cœur. On s'est dit, waouh! Moi, je me suis dit que c'était comment dire, fort en émotion, très fort en émotion. Mais non, j'ai pas senti que ça. Je dirais où on parle de notre cuisine, c'était avec la deuxième étoile. Déjà, ça commençait déjà en 2019. Je voyais qu'on était un petit peu. Et puis surtout les clients, quand ils venaient, les gens disaient ouais, on a mangé là, ils nous présentaient leurs réservations ou leurs anciens repas. Ouais. Ah, on a mangé là. Moi, à l'époque, il y avait un monsieur qui est venu, et je crois que c'est le plus gros client de chez El Bulli, par exemple. Bon, qui j'aurais pensé un jour avoir le plus gros client de chez El Bulli chez nous. C'est pas du tout impossible, quoi. Et le monsieur est venu, quoi, il est venu une dizaine de fois. Donc, je sais pas, c'est, voilà. Et puis, il y a des gens, il y a des chefs qui ont été un lieu de curiosité très, très vite. Énormément de gens de la profession, de la restauration sont venus nous voir. Donc, quelque part vous vous dites ça commence à décoller, vous vous dites on a un objet de curiosité, il faut pas décevoir et
ça met la pression.
Alors je dirais pas ouais ça met pas une forme de pression, je dis pas que donc je me dis que j'aimerais pas que les gens soient déçus par leur attente, c'est ça en fait. Après le travail on le fait tous les jours, donc la pression ça met nous-mêmes. Moi, je suis quelqu'un de très exigeant avec moi-même, donc je pense que le jour J, si vous voulez, j'ai pas plus de pression que ça. Le jour J, je fais ce que je sais faire. Mais évidemment, moi, surtout, c'est le regard que je regarde et de pas décevoir les gens. C'est ça où je me dis peut-être la personne sera minorée dans ses sentiments ou sera déçue. C'est ça, moi, en fait, qui m'inquiète. Le reste, après, en toute humilité, je sais ce que je fais, quoi. Je mets pas la pression pour savoir si ça va être bien ou pas bien ou machin, parce que je goûte tout, je fais tout, donc. Je suis pas plus inquiet que ça. Après, on peut pas forcément être toujours au top. Ça, je l'ai bien compris, mais de manière générale, on est à 100% de nos capacités du jour. Donc, je suis toujours dans. Et puis, il y a toujours cette attitude permanente. C'est-à-dire que je sais pas comment expliquer. C'est que même si on le refait tous les jours, je suis toujours inquiet de ça. C'est-à-dire que même si les gens vous disent c'est super, c'est merveilleux, en partant à 15h45. Ou à 16h, ben, vous savez qu'à 19h45, quand les premiers clients arrivent, ben, vous avez toujours cette incertitude qui est là. Ça va pas enlever votre incertitude. C'est ce qui fait aussi la beauté du fait que, ben, on rejoue tous les jours, chaque jour, quoi. C'est jamais la même chose.
Ouais, c'est ça qui est dur, à la fois, en effet, avec le sport, mais aussi avec la cuisine. C'est que, en gros, chaque jour est un nouveau commencement et chaque.
Ah ben, je pense que la cuisine, souvent, j'ai vu des choses qui sont comparatives, ils ont comparé des sportifs de haut niveau avec des cuisiniers de haut niveau, oui, bien sûr. Moi, je peux en témoigner. Hein. Je pense que le cuisinier de haut niveau, la cuisine de haut niveau est plus importante que le sport de haut niveau. Elle a des similitudes, des parallèles, bien entendu. Mais je pense que dans l'abnégation, dans la concentration, quand on est toujours, tous les jours au turbin.
C'est midi et soir, quoi.
Midi et soir, c'est autre chose. Moi, j'ai eu fait des sélections, j'ai eu beaucoup joué. Je sais ce que ça demande comme préparation, mais je peux vous dire que ouais, il y a beaucoup de parallèles, quoi, beaucoup de parallèles. Mais dans la concentration, l'exigence que ce soit, la différence, c'est que vous pouvez pas faire un match moyen, quoi. Vous êtes obligé de faire un bon game, quoi. Donc là, ça demande une concentration assez. Et puis comme nous, on est un peu autarcique dans le fonctionnement aussi, ça demande double de concentration. Ouais.
Et la troisième étoile, vous y attendiez?
Non, la troisième étoile, c'est juste tombé comme ça. En plus, nous, on est en période Covid, depuis le mois de octobre ou novembre, je crois, si je ne m'abuse. Donc, vous êtes 2 mois et demi après, vous n'êtes pas du tout dans la troisième étoile. Hein. Vous êtes dans le. Nous, on l'a donné au maximum. Nous, quand on a ouvert, on a réouvert au mois de juin, l'année d'avant. Nous, on a ouvert au plus haut niveau, dans le sens où, moi, je voulais pas. On avait fermé 3 mois, je me rappelle. Le 15 mars, on a fermé. Moi, je voulais être au taquet, quoi. Je voulais être là. Donc, nous, après, Nous, on a ouvert tout le temps, on était tout le temps là. Donc, on a été jugé sur ça, mais je pense que, comme les gens s'imaginent pas, on n'est pas jugé sur une troisième étoile, on n'est pas une troisième étoile grâce au camion ou grâce au dernier mois que vous avez travaillé. C'est de longue haleine. Je pense que le guide Michelin savent ce qu'ils font et ils ont l'habitude, l'expérience de ça. Donc, mais pour vous dire, non, ils avaient monté ils avaient caché un peu la chose, parce que j'étais invité, on était cérémonie était à huis clos puisqu'on est pas période Covid à la Tour Eiffel. On s'attend à rien. Et puis moi, j'apprends en fait en regardant le prompteur, en regardant l'écran. Il me pose des questions, je regarde l'écran et je vois Alexandre Mazia 3 étoiles. C'est comme ça que j'ai appris qu'il avait 3 étoiles. Donc tout s'est enchaîné, mais je me rappelle plus de rien en fait. Après, vous savez, vous avez un espèce de voile qui se met. Le soir, on allait chez mon meilleur ami, David Toutain. Il a sorti une bouteille, mais je pense que une super bouteille de sa cave. Et malheureusement ou heureusement, je me souviens même pas du goût qu'elle avait parce que j'étais tellement, je comprenais pas trop. Je me réalisais pas trop en fait. Pas forcément dans. On était contents, mais en fait, je sais pas comment expliquer. C'est vous faites une rétrospective sur votre vie, quoi, ce que vous avez fait, l'engagement. Et puis c'est là que vous prenez conscience. C'est là où j'ai dit. C'est là où à un moment donné, je me suis arrêté, je suis rentré le soir, parce que par le coup, on descend à la Tour Eiffel. Et descendre à la Tour Eiffel, il était quoi, à 19h? Il n'y a personne, Paris était vide. Je reste à peu près une heure en bas et la Tour Eiffel commence à scintiller. Et là, je commence. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que nous, à quelques mètres à côté, il y a Bir Hakeim qui est à côté, le pont de Bir Hakeim. Et moi, j'allais jouer au basket au pont de Bir Hakeim. C'était mes premiers streetball, pont de Bir Hakeim où j'allais, ou qui était l'endroit où Paris, il fallait jouer. Et c'est la première fois où j'ai commencé à jouer au basket là, où les gens ont commencé à respecter le basketteur parmi tous les joueurs que je vous ai cités. Et de se retrouver là, des années après, à recevoir votre troisième étoile au pied, dans la Tour Eiffel, au pied de ce terrain à Bir Hakeim, c'est juste fabuleux, quoi. Il y avait une espèce de boucle bouclée en train de vous dire et qui vous remémorait tout ce qui s'est passé pour être avoir cette magnifique troisième étoile.
Ah, c'est génial.
Ah oui, c'était formidable. Ah ouais, c'était fou.
Et là, depuis du coup que la troisième étoile est apparue, ouais. Qu'est-ce qui a changé pour toi?
Ah bah, le regard des gens. Le regard des gens a changé. Vous pouvez aller au restaurant maintenant sans être démasqué. Vous êtes dans un hôtel, vous dites bonjour à la moitié de l'équipe de l'hôtel. Donc des fois, suivant les hôtels, ça doit faire beaucoup de personnes. Ouais. Non, mais je veux dire, c'est pas désagréable. Vous savez, vous prenez un avion, vous faites un selfie avec des pilotes. C'est marrant. Puis en plus, Marseille, c'est quand même particulier parce que Marseille, comme on dit, Marseille est un village. Donc les gens sont bienveillants. Moi, j'ai des gens qui s'arrêtent, même encore maintenant, sont au feu rouge et ils vous saluent, ils vous disent bravo. Un an après, vous dites ah ouais, d'accord, c'est super. Mais ce qui est bien, c'est que ça souligne aussi un engagement et une façon de un regard de travail. Que tout ce que vous avez engagé, que ça soit aussi bien environnemental, sociétal, territorial, a du sens. Et ça, c'est pour moi, a fait sens. Et puis aussi sur l'engagement de notre cuisine, c'est-à-dire que au-delà qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est la rigueur qu'on s'est imposée pour faire ça. Puis on continue à le faire. Donc quelque part, comment expliquer, c'est que elle est là, mais en fait, on n'a pas de poids de troisième étoile. Au contraire, moi, je suis plus tranquille. C'est-à-dire que au début, je me suis dit peut-être que les gens, vous vous posez plein de questions. Maintenant, qu'est-ce que vont dire les gens sur le lieu ou pas, parce que on n'a pas des standards classiques.
Ouais. C'est brut.
Voilà. Et quand les gens viennent, en fait, après, ils vous envoient des mails, ils vous disent voilà, merci de cette expérience, c'est incroyable. Ils vous parlent que du paysage de vos assiettes, de l'émotion qu'ils ont ressentie, du partage du moment. Et il y a que ça qui compte. Ils vous parlent pas de la vie ou quoi que ce soit. Et vous restez un souvenir dans la tête des gens. Donc ça c'est génial, c'est fantastique.
C'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotions dans ta cuisine. Moi, j'étais venue l'année de ta première étoile. Alors, je sais plus si c'était avant ou après que tu l'aies eue. Ouais. Et clairement, tu vois, avec mon mari, ça faisait partie de nos plus belles expériences. Et on a eu la chance de faire plein de grands restaurants et tout. Et donc, je suis venue là récemment, maintenant que tu avais la troisième étoile. Ouais. Et pareil, enfin, il y a une émotion. Alors, c'est la première fois de ma vie que je faisais un 3 étoiles, donc je peux pas comparer avec les autres.
Faut y aller, il y a plein d'autres beaux 3 étoiles.
Mais c'est, on vit un truc en plus, en fait. On vit, il y a quelque chose en plus, en fait. Il y a une âme, ce qu'on disait, il y a une sérénité dans les équipes. On voit que les gens sont heureux de travailler ici.
Enfin,
il y a vraiment un apaisement. Et bon, évidemment, en termes de goût, on n'en parle même pas. Mais il y a un truc en plus ici qui fait que,
C'est gentil. Après, nous, on donne tout. Comme je dis, j'ai compris de la manière dont j'étais. Donc, on donne tout, quoi. On donne le meilleur. Donc, des fois, on peut donner le meilleur et ça se passe pas bien. Mais tous les gens ici sont gentils, sont vraiment gentils, sont vraiment passionnés, passionnants. Sont tous d'une motivation incroyable. Ils aiment ce qu'ils font. Ils le chérissent.
Il y a beaucoup d'attention.
Oui, oui, ouais. Je pense. Ouais. Et puis même Marco, qui raconte l'histoire aussi au quotidien. Fait que c'est la valeur ajoutée aussi du supplément d'âme que ah, et puis tout le monde a un regard posé sur chaque gourmet, chaque gourmand pour être le plus attentif possible. Ouais, dans la minutie émotionnelle, c'est important.
Ça, c'est marrant parce que en janvier, j'ai plus de chômage depuis janvier et en fait, je m'étais dit que j'allais m'offrir un cadeau parce que j'arrive enfin à me rémunérer avec mon projet, donc
ouais.
C'était quand même
ce
qui est super chouette, merci. Et en fait, c'est drôle parce que je m'étais dit que j'avais envie de m'offrir un cadeau qui reste parce que c'est un truc et je l'avais pas matérialisé comme ça, mais en fait, c'est le dîner chez toi, mon cadeau de mon premier salaire. comment t'écoutes ton intuition?
C'est quelque chose qui vient comme ça, c'est-à-dire que c'est compliqué au début, elle vous fait peur, dont l'instinct, c'est pas bon. Faut faire confiance à l'instinct. Après, il y a des instincts qui sont pas bons, mais je me suis trompé beaucoup de fois, hein, mais je sais pas comment expliquer. Je sais pas, il y a quelque chose que vous sentez ou pas et qui vous dit ça va être bon ou pas bon. Donc, vous voulez retranscrire. Les intuitions, je dirais, je suis pas très bon, mais dans l'instinct, je sais pas, je me débrouille pas trop mal. Mais encore. Mais, j'essaie de faire attention à tout ce qui se passe autour de moi et de sonder les énergies. Ouais. C'est les énergies qui vont me dire si ça va le faire ou pas. Et puis surtout, ce qui est important, c'est de se dire, c'est pas forcément que pour moi. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, j'ai un regard sur l'ensemble. Donc je me dis, il faut que ça puisse faire une cohésion générale et faire en sorte que ça puisse que le groupe puisse bien vivre. Moi, c'est ça ma prérogative. C'est de dire, voilà, comment va vivre le groupe de ça et de ça et de ça. Sans forcément se sentir, je sais pas comment expliquer, je dirais pas déçu, mais démotivé, quoi. Le principal, c'est de choyer tout le monde et de faire attention à que toutes les prédispositions soient prises dans l'intérêt du groupe. Toujours. C'est pas dans mon intérêt. Ce que je leur disais samedi, c'est-à-dire que si j'avais pris une décision juste dans mon intérêt, je pense qu'on serait pas tous là aujourd'hui, quoi. Donc, c'est juste une décision, voilà. Général. Après, moi, je mène le bateau, mais des fois, il y a des décisions que je prends. Parfois, même les gens me disent, mais t'es fou de faire ça, pourquoi tu fais ça? Mais parce que c'est l'intérêt général.
Tu penses à quoi, par exemple?
À tout. Que ce soit pour les jours de fermeture, pour.
Parce que du coup, vous êtes fermé le.
Nous, on est fermé dimanche, lundi, mardi, enfin, au public. Là, ils viennent ce matin pour faire un peu de mise en place, jusqu'à midi. Après, on est fermé 3 jours. On fait beaucoup de choses à l'extérieur ensemble. Voilà, que ça soit aussi le nombre que l'on est, hein. On est quand même 24.
Donc, pour combien de couverts?
24 pour 24 couverts, à peu près. Ouais. Donc, on va, en plus, à partir du mois du 20 juillet, on va passer à 20 couverts.
Pourquoi?
Parce que, l'appareil que les gens me disent, je suis un fou, c'est qu'on va enlever la table de 6 qui est là-bas, au fond. Mm. On va aller au bout.
OK.
Et, on va créer une plonge un peu descente pour mon plongeur, même si elle y est déjà, mais. Voilà, pour qu'ils aient un confort de travail encore plus pour aussi nous on n'a pas d'office, hein, on n'a rien, donc on fait tout au pied levé. On fait tout au pied levé, ça demande une exigence, mais aussi ça demande une usure qui se passe. Donc aujourd'hui, il est important pour le confort des équipes, pour tout le monde, d'avoir ce support de travail et de faire en sorte que ça se passe bien. Donc le but, c'est de durer et à chaque fois de construire quelque chose, un outil de travail qui nous permet de donner le meilleur. Moi, je dis, le meilleur restaurant du monde, c'est C'est le meilleur restaurant du monde. C'est le restaurant qui offre les meilleures conditions de travail. C'est ça d'être le meilleur restaurant du monde. Et voilà, moi, ça a toujours été. Des fois, j'ai toujours dit il y a des choses que je voulais faire, mais j'ai pas pu réussir à faire parce que économiquement, ça m'impacte. Et que des fois, je leur parle pas trop de ça, mais des fois, c'est pas évident économiquement parce que moi, j'ai pas de. Ouais, je suis seul. Hein. J'ai rien. J'ai pas d'actionnaire. J'ai pas de fonds d'investissement, j'ai rien. Donc je me suis fait tout seul, donc c'est vrai que bah voilà, il faut faire attention à tout ce que ça comporte et tout engagement, même que ça soit aussi au niveau matériel et tout, il faut bien réfléchir et penser.
Ouais, c'est ce qu'on a dans ma vie d'avant, je travaillais dans l'expérience client. Ouais. Et dans l'expérience client, on appelle ça la symétrie des attentions, le fait qu'en gros si ton équipe n'est pas bien, tes clients peuvent pas être bien.
Ouais. Ouais. Ben voilà, tu vois.
Ouais. Comment tu célèbres tes réussites?
Alors moi j'ai un problème avec ça, c'est-à-dire que j'essaie de faire en sorte de par exemple, tu vois, on n'a pas encore fêté notre troisième étoile. On l'a fait le jour même quand on l'a su, mais on l'a pas fêté. Je sais pas comment expliquer. Nous chaque samedi déjà, on fait un petit pot ensemble. On est parti, en fait, les pâtissiers font des pâtisseries, on fait des préparations salées, on boit une champagne ou un vin blanc ou un vin rouge chaque samedi soir avant de partir. Pour
génial.
Moi, c'est toujours été important ça. Mais c'est vrai que je sais pas comment exprimer, c'est quelque chose pour moi qui, parce que je le vois pas comme ça. Donc, alors j'essaye maintenant de faire en sorte que tout le monde le vive parce que, pareil, les gens ont besoin de le célébrer et puis je pense que c'est important, ça marque aussi les esprits. Et, donc là, bientôt, on va fêter la troisième étoile. Je vais les inviter je leur dis pas encore, mais dans un endroit pour la fêter. Mais je dirais que, je sais pas comment exprimer. Je pense que c'est ma pudeur ou le fait que je me dis rien n'est jamais acquis. À un moment donné, moi, je suis un extrême pragmatique. Voilà, je peux apprendre d'être dans les meilleurs restaurants du monde et où tous les gens vont être mangés pour moi, mais moi, je me dis bon, ok, super, mais what else quoi. C'est quoi le truc, tu vois? Et parce que mon quotidien, moi, je suis dans mon quotidien. Et ça, j'ai beaucoup de mal. Ma femme, d'ailleurs, des fois, elle me dit prends le temps de. Enfin, ma femme, elle m'a dit mais. Un jour, elle m'a fait prendre conscience des choses quand j'ai commencé mes travaux, que je voulais pas, etc. et tout, machin. Mais elle me dit, si t'en as envie, il faut que tu le fasses, regarde, c'est bien pour toi, pour tes équipes et tout. Et elle m'a dit un jour un truc qui m'a marqué, elle m'a dit, mais tu sais que tu es chez toi? J'ai dit, comment ça? Elle m'a dit, tu sais que c'est ton restaurant, tu es chez toi, tu peux faire ce que tu veux. Même si tu feras pas, parce qu'au début, vous apprenez ce que vous avez à, vous pensez que c'est bien de faire ça, mais en fait, finalement, c'est de pouvoir faire au mieux pour tout le monde et de voir si vous sentez quelque chose, faut le faire. Et c'est ça qui est important. Et donc moi, c'est pas forcément une victoire. C'est on a fêté nos, je crois qu'on avait fait une fête au Good pour fêter nos 4 ans de restaurant, 5 ans. On essaie de faire des, on vit beaucoup de moments, on va dire hebdomadairement, qui fait que on fait jamais trop grandes fêtes. Mais on va le faire pour la troisième étoile. Ouais. Ouais.
À quel moment dans ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi?
Pourquoi pas moi, c'est-à-dire?
Est-ce qu'il y a des moments dans ta vie où tu t'es dit pourquoi pas moi, par exemple en voyant un chef qui a sa troisième étoile, pourquoi pas moi? Pourquoi moi j'aurais pas cette
troisième? Non, je pense que je suis pas comme ça. Je pense que non. Ah non. Je pense que ce qui fait que moi, si vous voulez, je me suis jamais dit un jour ah non, pourquoi pas moi? Non, c'est pas le. Ça, je pense que ça n'a jamais été mon truc. Au contraire, moi, je suis content pour les gens qui réussissent.
Il y a pas forcément, c'est pas forcément de la jalousie derrière le.
Ouais, je sais. Ouais. Mais non, je pense. Bah non, j'ai jamais pensé. Non, c'est bizarre hein, parce que toi, jamais je me suis posé cette question, tu vois.
Alors. C'est quoi pour toi la réussite?
Ah, c'est les enfants. Pour moi, c'est les enfants. C'est les enfants. Là, pour moi, c'est important. C'est ça la réussite. Ça la réussite. Après il y a la réussite professionnelle, voilà, elle est là et quand elle est là, tant mieux. Mais pour moi cuisinier, c'est troisième étoile, c'est juste extraordinaire. On nous annonce encore beaucoup de belles choses, tant mieux. Mais je dirais que la réussite pour moi, c'est les enfants. C'est voilà, accompagner vos enfants à devenir des citoyens respectables, respectueux et à s'épanouir. Moi, c'est ça. C'est les choses la plus dure, je crois. C'est le programme que je me suis mis dans ma tête, mais c'est un programme. Je me rappelle, ça, c'est chapeau à mes parents, même si des fois, ça n'a pas été forcément facile pour moi, mais c'est dur. dur mais tellement beau.
Ouais. Qu'est-ce que tu penses que le petit Alexandre dirait s'il voyait le petit Alexandre de 6 ans, s'il te voyait aujourd'hui?
Ah, le petit Alexandre, il me dirait, tu t'es pas mal trop démerdé, mec. C'est pas mal. Continue, va dans les mariés. Il me dit, sauf qu'il lui dirait peut-être, repose-toi, fais gaffe un peu quand même. Il dirait ça. Mais il dirait, je pense qu'il lui dirait, je pense qu'il lui dirait, papy est fier de toi. Ouais, reste fidèle à tes valeurs. Continue à écouter ton instinct. Il dirait, voilà, est-ce que tu veux qu'on aille, est-ce que tu veux qu'on aille faire de la bouée dans les rouleaux? Je dirais, ouais.
On dit que quand dans la vie, il y a des choix, il y a des renoncements. Ça a été quoi, tes renoncements à toi?
Alors, je pense pas ça comme des renoncements, mais c'est simplement, je pense que moi, j'ai jamais trop fait la fête. C'est sûr, hein, c'est sûr et certain. Je pense que j'ai vécu, de manière très seule pendant très très longtemps. Mais c'est pas par, c'est comme ça. Moi, la solitude fait partie de mes attributs. Je le sais maintenant. Mais ça toujours, voilà, c'est comme ça. Et je dirais, renoncer. Je sais pas, il y a des choses que je me suis refusé de faire pour pas salir mon âme, quoi. Ça, c'est pas possible. Travailler pour des gens ou des endroits à laquelle je pouvais plus ou je pouvais pas, quoi. C'est pas possible. Je pense que l'intégrité intellectuelle, elle a pas de prix, quoi. Si vous êtes bien raccord dans votre tête, c'est ce que j'ai appris au long de ces années, c'est d'être en raccord avec soi-même. Raccord avec les autres, c'est une chose, mais raccord avec soi-même, c'est le plus important.
C'est essentiel. Ouais. Sinon, notre corps nous parle.
Pardon?
Sinon, notre corps nous parle.
Eh ouais, ouais. Je dis, ouais, à un moment donné, ouais. Ouais, puis même, je sais pas, ça me paraît, ouais. Pour moi, c'est évident. Mais il faut savoir le protéger, ça aussi. Et comment se construire comme ça, ouais. Pas facile.
Comment tu fais pour le protéger?
Ça dépend de quoi, mais après, c'est facile, hein. Moi, je vis d'une manière assez, assez simple, en fait. Je m'impose pas ou je me casse pas de quoi que ce soit. Je fais les choses naturellement. J'essaie de protéger mes enfants de choses qui pourraient les polluer, comme les sources pourraient imaginer tout genre de succès ou genre de truc qui n'est rien en fait, c'est juste du travail. Ça, c'est important, la valeur du travail et présenter le travail. Et puis se protéger, c'est vivre avec ce qu'on aime. Les gens connaissent Alexandre Mazia là, peut-être comme ça, mais on va dire le vrai, ils le connaissent pas.
Ouais. Et tes enfants, ils le vivent comment, le fait que tu sois plus célèbre? En plus, tu as été dans Top Chef, et donc du coup...
Pour ceux là-dessus, je pense qu'ils ont, ils ont hérité de comment on se voit les choses, c'est-à-dire que ça coule sur eux, quoi. C'est pas...
Tant mieux.
On regarde, mais si vous voulez, il n'y a rien de, comment dire, qui laisse transpirer quoi que ce soit là-dessus. Moi, mon fils est Top Chef, il dit c'est cool, je suis passé, c'est top, basta, quoi. Après, il y a des potes qui vont dire, ouais, ton père est Top Chef, ouais, ouais, ok, c'est tout, stop. Il a pas, voilà. Ma fille est plus jeune, donc, ma fille, elle, à part sa maîtresse, ou ses tata, j'allais dire, mais, et on le reste, non, le reste, c'est cool. Le reste, on le vit de, c'est quand on commence à en faire un pataquès que ça devient compliqué. Si vous faites les choses simplement, y a pas de raison qu'il y ait des contraintes, quoi, hein. Après, il faut faire attention aux sollicitations des gens qui vous demandent beaucoup, 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 beaucoup de choses. Et ça, se protéger, c'est savoir dire non. Et les gens, des fois, quand vous dites non, ils ont l'impression que vous avez la grosse tête, mais c'est juste dire à un moment donné, c'est pas le moment. Et puis, ça vous ressemble pas, et puis, il faut avoir l'énergie, le temps pour pouvoir le faire aussi avec les gens. Et ça, les gens, des fois, l'oublient. Ou les gens vous disent, oui, ça fait longtemps que je te suis, tu comprends, oui, d'accord, ok. Longtemps que tu me suis, mais t'es déjà venu me voir. Bizarre. Puis ceux qui apparaissent depuis vous avez pas vu pendant 20 ans et qui vous disent que ce sont vos amis. Ouais. Voilà, vous restez poli, tout ça, bien sûr, sans problème, mais voilà, vous savez que c'est littéralement faux.
Ouais, il faut avoir un bon mental.
Ouais, un bon mental. Ouais,
un mental, mais il faut rester dans ses baskets.
Ouais, et puis il faut rester
bien dans ses baskets.
Ouais, et puis je pense qu'il faut pas se laisser embraser. Faut juste pas changer du jour au lendemain. J'ai pas changé d'amis du jour au lendemain, ou pas changé de jeune là, et qui. Moi, j'ai eu la chance de voir dans le monde du sport des gens s'embraser et faire n'importe quoi. Et je le savais que ça allait partir en cacahuète sucrée, si j'ose dire.
J'aime bien la notion de cacahuète sucrée.
À partir de là, vous faites. Ouais, faut faire. Ouais. Il n'y a pas de raison. Vous êtes fidèle à ce que vous êtes, à ce que vous faites. Tout le reste. Le reste, c'est que futilité.
C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à traverser?
La méconnaissance. Je pense qu'à un moment donné, je me suis retrouvé en retour d'Afrique avec une méconnaissance de beaucoup de choses, que ce soit en culture générale ou même en relations humaines, une naïveté tellement évidente, qu'après, bah, je me suis construit dans quelque chose qu'il fallait que j'ai dû savoir. Pas le savoir pour le montrer, mais comprendre. Et à partir de là, ça m'a beaucoup aidé, quoi. Ça, ça a été difficile. Puis après, il y a eu, bah, comme tout le monde, hein, je pense que le fait que vous ne pouvez pas manger à votre faim, certaines fois, ça vous met d'équerre. Face à la maladie aussi. Quand vous avez des amis ou des proches qui sont malades, cancer, etc. et tout, ou qui sont décédés de ça, ben, en quelques mois, ça vous apprend la vie. Comme tout le monde. Mais le fait de pas pouvoir manger, de pas avoir un toit, ouais, ça vous apprend la life.
Parce que ça t'est arrivé?
Ouais, ça m'est arrivé, mais bon, je le vis bien, hein.
C'était quand?
Oh, c'était il y a pas mal de temps. J'ai compris que la fratrie avait des limites et que le poste que j'avais était envié et que les gens m'aidaient pas, quoi. Donc voilà, vous dormez dans une bagnole parce que vous n'avez pas de toit, vous n'avez pas de quoi, voilà, au début payer un loyer, tout ça. Bah, c'est pas grave, c'est normal, parce que on peut pas demander à chaque fois de porter caution et tout, mais ça m'a appris la vie, quoi. Et puis voilà, et puis vous l'apprenez, puis vous le faites. Puis ça, vous l'oubliez jamais.
Non,
vous l'oubliez jamais. Vous savez où vous êtes, machin. Pour ça, des fois, la femme, des fois, ou même me dit, mais vous rendez compte, tu fais ça n'importe quoi. Mais t'inquiète, moi, j'oublie pas. T'inquiète, j'oublie pas.
J'ai interviewé une femme exceptionnelle qui s'appelle Ashley Taïeb. Je sais pas si tu l'attends.
Ouais,
tu vois.
Bien sûr.
Et qui a été, du coup, SDF pendant 4 ans.
Ouais.
Et qui s'est relevée. Et tu te dis, mais enfin, c'est... Bon, elle, c'est un autre parcours de vie, hein, parce qu'elle a été héroïne ouais, man et tout, ouais. Mais c'est une femme, ouais. Ouais.
Incroyable.
Exceptionnel, ouais.
Incroyable dans ce parcours de vie.
Ouais.
Mais ça vous apprend la vie.
Ouais. C'est ça, ouais. C'est, quand tu te relèves de ça.
Et puis la rue, c'est dur. Mais bon, c'est comme ça.
Ouais. C'est quoi, ça a été quoi tes peurs quand t'as ouvert ton restaurant?
Sur mes peurs. Ah, je pense que quand je fais les choses, je pense que je me rendais même pas compte qu'il pouvait se passer quelque chose, quoi. C'est tellement déterminé dans ce que je voulais faire qu'il n'y a pas de peur. Bah, les peurs, oui, au début, vous avez les peurs de ne pas avoir de clients. Les peurs de savoir comment vous allez, si vous allez pouvoir payer, au début on était 3, 4, payer vos salariés, mais pas plus que ça en fait. Avec le recul, pas de plus que ça. Parce que je me suis toujours dit que ça marche pas, ça sera autre chose. Je suis pas inquiet de ça. Moi je suis pas inquiet de la vie dans le sens où je suis un travailleur, donc, à partir de là, si vous voulez, je suis pas forcément, là-dessus. Après j'ai toujours des craintes, mais avant c'était ça. Après les craintes c'était surtout que voilà, l'électricité coupe, ouais, tu pouvais pas faire ça en plein service. Pas mal de choses comme ça qui sont arrivées. Il y a eu le feu ici, juste derrière vous, là, la lampe, là, en pleine nuit. Ah ouais, c'est des choses, ça aussi. Enfin, on a passé pas mal de choses, mais non. Après, c'est sûr, mais ça, c'était. Ouais. Après, c'est ça. Après, le reste, je pense que je suis tellement construit dans une détermination que, non pas que je pensais que le restaurant allait marcher ou pas. Hein. Bien au contraire, mais. J'étais tellement concentré sur la cuisine, sur ce que je voulais faire, etc. et tout, que c'est plus fort que tout, quoi. Je pense que ça vous enlève de la peur. Ouais.
De quoi t'es le plus fier aujourd'hui?
Quoi, je suis le plus fier aujourd'hui? Oh, je dirais, oh, c'est ma fille et mon fils, ouais. Ouais.
Si tu croises quelqu'un dans la rue qui te dit que tu n'en es là que pour, grâce à de la chance, qu'est-ce que t'as envie de lui répondre?
Je dirais ce que disait mon grand-père, la chance, c'est la rançon du travail. Vas-y, travaille. Ouais.
Quel est le conseil que tu aurais aimé recevoir et du coup que tu voudrais donner aujourd'hui?
Ouais, je pense qu'il y en a beaucoup. Hein. Mais c'est juste d'être soi-même. Et de ne pas avoir peur d'être soi-même. Je pense que c'est important d'assumer qui on est.
Et le meilleur conseil qu'on t'ait donné?
Oui, c'est mon grand-père. Il m'a donné beaucoup de conseils. Le plus beau conseil qu'il m'ait donné, c'est... Il y en a plusieurs. La parole vaut l'homme ou l'homme ne vaut rien. Il faut que personne n'ait deux mots sur toi. Et ensuite, aime ton métier. Aime ton métier et un jour, il te rendra. Enfin, il m'avait dit surtout, quel que soit le métier que tu fasses, aime-le, car un jour, il te le rendra. Ça, c'est, je me rappellerai toujours de ça, cette phrase. Il m'avait dit, il me l'a rêvé, on était sur le pont. Je me rappelle toujours, il était sur le pont de l'embarquement à Sablanceau. Il m'avait dit ça. Il était avec sa canne à pêche, il m'avait dit ça. Je vois même encore le... Je revois le moment.
C'est quoi tes prochains défis?
Prochain défi, c'est qu'on va faire les travaux au mois de juin. Là, on fait les travaux le 12 juin jusqu'au 20 juillet. On va rouvrir le restaurant avec 4 couverts en moins. C'est de garder la même équipe avec moins de couverts et de faire en sorte qu'on puisse garder le même confort de travail qu'on a aujourd'hui. Ça, c'en est un. Déjà, qui est demain. De faire en sorte, on réalise, il y a un film qui a été fait, on a été demandé pour faire un film sur l'histoire du restaurant.
Ah, génial.
Donc, ça va être un défi aussi. d'aller cet après-midi, à la kermesse ou je sais pas quoi de ma fille, ouais, ils sont tous
au carnaval.
Ouais, ça va être un défi pour moi. Parce que moi, c'est des lieux où je me sens pas du tout à l'aise. Je me sens pas bien. Et, mais non, vraiment, je me sens pas bien. C'est comme quand on va boire un verre, on les envoie ça. C'est un environnement que je sais pas où je suis et je me sens pas bien du tout. Je suis pas à l'aise. Ça va être un défi pour moi. Mais bon, ça, c'est les défis de la vie. Donc, il faut que j'apprenne. Il faut que j'apprenne.
Aujourd'hui, du coup, t'as le resto AM qui a 3 étoiles. Ouais. T'avais ouvert un food truck à l'occasion du confinement.
Ouais, on va réouvrir le food truck bientôt. On arrive le food truck bientôt. On va le remettre. On va essayer de le remettre. On est en train de voir avec la mairie de Marseille. J'espère de pouvoir le remettre à l'emplacement où on était. Pour moi, c'est important parce que voilà, c'était un investissement lourd pour le restaurant. On a réussi à garder les équipes en place. Les gens nous le redemandent. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent le camion avec évidemment ce que l'on avait fait, mais une nouvelle formule plus adaptée et plus street food pour les personnes. Et en même temps, voilà, moins onéreuse parce que elle était un peu plus onéreuse parce que pendant le confinement, parce qu'on travaillait des produits du restaurant et que les gens voulaient aussi manger un petit peu de ce qu'il y avait dans le restaurant, comme les Saint-Jacques de plongée. Donc, il y avait beaucoup plus, on va dire, adapté street food. Donc, ça c'est super. Plus des chambres d'hôtes qui vont ouvrir au Good.
Ouais. Ah génial. Ouais. Top. Quand?
Bientôt.
Bon, quand l'info sortira, ouais, je la relayerai.
Avec plaisir.
Et j'avais lu aussi que tu avais ouvert un restaurant avec ton frère.
Non, c'est fini ça. D'accord. Il a été vendu. Ouais.
Ok.
Ça a été vendu avec. Ça a été vendu il y a maintenant pratiquement un an. C'est vendu. Il n'y a plus rien.
Donc si on veut découvrir ta cuisine, c'est ici.
C'est M ou ça sera au food truck. Je l'espère. Bientôt.
Et si on est champion olympique
Ah, et si vous êtes qualifié pour les Jeux olympiques, ouais, c'est bien. Au village des athlètes à Paris, village des athlètes au village olympique pour 2024. Ouais. Ça c'est un super événement. On m'a proposé ça c'est grâce à Akram Ben Halal qui est dans la boucle. Et du coup, super quoi. Du coup, un événement merveilleux où vous rencontrez évidemment tous les athlètes français, internationaux. Impossible de refuser de participer à un tel événement.
C'est un joli trait d'union ici.
Ah ouais, c'est super, c'est super. Ouais, moi, je suis très content de ça. Très content de ça. Je suis heureux de ça et de pouvoir amener peut-être mes enfants à des manifestations. Mais en plus, le village olympique, il est vraiment autarcique. C'est que pour les athlètes. Vous n'avez pas le téléphone, vous n'avez rien. Donc, c'est vraiment vivre l'instant avec les athlètes. C'est super. J'espère. Je ramènerai des souvenirs plein la tête et puis se retrouver indirectement peut-être participer à la performance des athlètes, c'est génial.
Ah, c'est super. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte?
J'ai pas entendu parler.
À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte?
Ah, merci à toi pour parler de notre histoire, déjà c'est super. Merci à mon grand-père pour tout ce qu'il m'a inculqué et les valeurs qu'il m'a donné. Puis surtout merci à mon épouse hein, de me supporter dans ma folie quotidienne de me permettre parce que si je suis là aujourd'hui c'est grâce à elle aussi parce que de pouvoir d'avoir fait ce qu'elle a fait inhiber ses envies ou son plan de carrière pour que moi je puisse me réaliser c'est quelque chose que vous comprenez après et vous vous dites c'est la personne elle vous aime vraiment quoi pour pouvoir accepter ça quoi. Donc, sinon on serait pas là. Je pense que si j'avais pas eu cette quiétude pour travailler autant, ça aurait pas marché. Quoi.
Parce que du coup, t'es là tous les mercredi, jeudi, vendredi, samedi, midi et soir.
Ouais, moi je suis là tout le temps. Là, j'étais là ce matin. Bon, là j'étais au Good justement pour le chantier. Je suis arrivé juste avant que t'arrives là, à 9h30. Mais ils sont là le matin à 8h. Moi, je suis là. Je dépose ma fille à l'école. Je me suis imposé aussi ça. Avant, je déposais pas ma fille à l'école. C'était dur. Donc je dépose ma fille à l'école à 8h20 et comme ça à 8h30 je suis là tous les jours et puis je commence à 8h30 et je finis à minuit et demi, je suis à 1h à la maison.
Ouais, du coup c'est un rythme de vie particulier.
Très particulier. Bon, c'est la cuisine, c'est ma vie, donc je peux pas faire non.
Ouais. On la remercie parce que du coup grâce à elle on peut se régaler.
Ouais, j'espère. Ouais.
Merci beaucoup Alexandre.
Merci à toi, merci beaucoup. À bientôt.
À bientôt.
Ciao.
J'espère que vous aurez pris autant de plaisir que moi.
Pour en savoir plus sur le restaurant intitulé AM d'Alexandre Mazia, je vous mets le lien sur le blog de Pourquoi pas moi. Si le podcast vous plaît, abonnez-vous et mettez 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts. Pour moi, c'est énorme. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous donne rendez-vous demain sur la newsletter de Pourquoi pas moi.